C'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un.
C'est un bateau ancré au large de Hawick, dans la mer du Nord.
Les DJ de la haute mer.
À la limite des eaux territoriales anglaises.
Bringing the time up to 9:04, Radio London Time, the station with kicks on 266.
Dans les années 60, les postes de radio de l'Europe du Nord vont vibrer de nouvelles voix, de nouveaux sons, de nouvelles musiques. On les a appelés Offshore Radio, Pirate Radio ou Marine Broadcasters. Mais quelles que furent les expressions par lesquelles on les désignait, ces DJ de la haute mer qui opéraient depuis des bateaux ou des forts marins abandonnés ont écrit d'incroyables pages d'aventures radiophoniques et maritimes.
Radio Caroline, qui régnait sans partage sur le nouveau monde des stations musicales commerciales maritimes, a maintenant une concurrente. Le 23 décembre 1964, Radio London est arrivé sur les ondes. Pour la première fois depuis la naissance du phénomène des radios offshore, les actionnaires de cette nouvelle station ne sont pas européens, mais majoritairement américains. Et leur conception de la radio est en fait assez impérialiste. Ce n'est qu'à regret qu'ils ont consenti à ce que les programmes ne soient pas totalement copiés sur ceux des radios US. La nouvelle venue arrive non seulement avec des moyens et des ambitions, mais aussi avec une philosophie d'entreprise. Radio Caroline fut la première radio musicale de Grande-Bretagne. Les auditeurs n'avaient aucune autre référence. La programmation des disques n'était pas soumise à des contraintes particulières. Aux États-Unis, les radios musicales existent depuis longtemps et rien n'est laissé au hasard. Le format Top 40, par exemple, qui repose sur une programmation des 40 titres les plus vendus, s'est imposé depuis plus d'une décennie et risque bien de faire autorité en Grande-Bretagne aussi. Ronan O'Reilly, fondateur de Caroline, a très bien compris que sa nouvelle concurrente risquait bien de dominer les débats. Toutes ces considérations font que l'on est en face de véritables professionnels qui s'observent et développent des stratégies. Les deux stations sont des entreprises de médias de taille respectable. Elles disposent d'ailleurs de bureaux en plein centre de Londres. Et pourtant, leur situation juridique est toujours complètement floue.
Ah, yes, that's Al Herp there with a thing called Fancy Pants, the Radio London Kalima. Getting better and better. Number 13 on the charts, it's the Animals.
Baby, do you understand me now?
Pour faire face à la concurrence de Radio London, Caroline Thouse organise le 5 mars 1965 un concert depuis le Fairfield Hall de Croydon, retransmis en direct et baptisé Sound of 65. Le live voit se succéder sur scène des groupes comme les Muddy Blues ou les Yardbirds. Le samedi 17 avril, la station célèbre son premier anniversaire et diffuse simultanément le même programme sur ses deux antennes. Brenda Lee, Cliff Richard, The Shadows, Roy Orbison, Dusty Springfield, Donovan, The Supremes, Marianne Faithfull et un certain Stevie Wonder se succèdent pour souhaiter un joyeux anniversaire à la première radio britannique entièrement musicale.
Hi, this is Stevie Wonder, wishing everyone at Radio Caroline a very happy birthday and many more. Oh yeah!
À cette occasion, la station a organisé les Bell Awards, le nom faisant référence à la fameuse cloche qui retentit souvent sur l'antenne. The House of the Rising Sun valut aux Animals la récompense de meilleur disque de groupe de l'année. Petula Clark fut nommée meilleure artiste féminine pour son titre Downtown, Tom Jones meilleur artiste masculin pour It's Not Usual et les Beatles meilleur groupe pour l'ensemble de leurs disques. Tous les artistes espèrent revenir en 1966 et même au-delà pour les prochains anniversaires et l'heure est à la fête. Caroline a en effet réalisé pour sa première année un chiffre d'affaires de 294 000 livres pour un coût de fonctionnement de 100 à 150 000 livres. Une somme respectable pour une radio qui a véritablement inauguré un marché publicitaire. Toutefois, la station commence à rencontrer quelques soucis. L'indépendance des deux programmes et la concurrence que Radio London exerce sur Caroline South, ainsi que l'emplacement géographique des deux navires émetteurs, commencent à avoir un impact réel. La situation de Caroline North est plutôt bonne. Tout d'abord, le navire a réussi à se faire accepter par les habitants et le gouvernement de l'île de Man. Les DJ ont très tôt fait référence à l'île, à ses beaux paysages, et les Manois ont vite compris que la présence du MV Caroline pourrait exercer un attrait touristique. Mais surtout, le navire radio a immédiatement eu une influence positive sur l'économie de l'île. Il a besoin de ravitaillements réguliers, et lorsque les DJ reviennent à terre, ils séjournent sur l'île et exercent un attrait auprès de la jeunesse qui sort davantage pour les rencontrer. Les Manois sont aussi à l'écoute de la station pour s'assurer que tout va bien à bord. Caroline North n'a pas de concurrente. L'antenne reste dirigée par Ronan O'Reilly qui fait confiance à ses DJ pour le choix des disques. Ceci est d'autant plus judicieux que le foyer de la nouvelle musique pop se situe plutôt dans cette région, au nord-ouest de la Grande-Bretagne, et en particulier à Liverpool, bien sûr. Les DJ sont vraiment en prise directe avec l'évolution des goûts du public et les nouveautés. Les choses deviennent beaucoup plus difficiles pour Caroline South qui souffre de la concurrence de Radio London, tant sur l'antenne qu'à cause d'un signal de réception moins bon. Une américanisation des programmes va être décidée à la hâte et l'on va demander aux DJ d'adopter un style plus fantaisiste et d'une certaine manière plus agressif. Mais ces nouvelles orientations vont mal passer auprès de la plupart d'entre eux. Marqués par l'esprit des débuts, certains DJ ont du mal à s'adapter et l'enthousiasme n'y est plus. La programmation musicale va aussi évoluer pour ressembler à celle de Radio London. Le problème est que quelques mois plus tôt, la régie publicitaire de Caroline avait réussi à vendre un certain nombre de programmes sponsorisés auprès de grandes firmes britanniques. Ces programmes de 15 à 30 minutes avaient un contenu très anglais tant dans leur présentation que dans leur contenu. Et ils ne s'accordaient franchement plus avec le nouveau style de l'antenne. Il résulta de tout cela le fait que le programme Sud n'avait plus aucune cohérence. Les revenus publicitaires commencèrent à baisser de façon spectaculaire et Caroline South ne tarda pas à devenir une radio subventionnée par sa station sœur du Nord. Dans le Billboard du 1er mai, Caroline fait paraître une annonce de recrutement spécialement destinée à des DJ qui auraient déjà travaillé sur une radio américaine.
They should re-release that one again at Christmas, shouldn't they? A little Eva with Let's Turkey Trot. The time on Radio Caroline, Britain's first commercial radio station, 14 minutes to 6. Tony Blackburn here with All Systems Go. And don't forget that at 6 o'clock you've got your Caroline Club request with Doug Carr. Well, I'm thoroughly enjoying hearing the old hits of the past this afternoon. Hope you are too. That's much more important. If you are, then if you'd like to drop us a line, perhaps we could do exactly the same thing again. Get some more of the old records. We've got loads in our vast library downstairs just waiting to be played. And if you'd like to hear them, well, drop me a line, will you? Care of Radio Caroline, London West 1. And we'll see what we can do, because after all, we're only here to please you. If you enjoy hearing the old ones, well, only too pleased to play them again for you. Let's get on with some of the old ones now. We've got about another four left only, because time's running very short. Here's Buddy Holly and the Crickets with You've Got Love.
Au début du mois de mai, une guerre des chiffres et des points de vue s'engage entre les deux principales radios offshore et certaines maisons de disques. La vente de singles qui avait connu une augmentation en 1964 est en train de ralentir. Certaines maisons de disques rendent les deux stations maritimes fautives de cette baisse. Selon elles, Caroline et London diffusent trop de pop. Elles développent l'argument selon lequel, à l'époque où il n'y avait que Radio Luxembourg et la BBC, cette musique était moins diffusée et suscitait donc un désir d'achat. En somme, selon elle, le public achète moins de disques car il peut entendre de la pop en permanence sur les stations maritimes. Ronan O'Reilly réplique que l'intérêt pour la musique pop a largement progressé grâce aux radios offshore et que celles-ci ont juste brisé le monopole de quelques grosses maisons de disques en ayant des programmations musicales plus variées. Philip Birch de Radio London fait observer que si la vente de 45 tours est en baisse, celle des albums est en augmentation aux États-Unis et que la tendance arrive aussi en Grande-Bretagne. Radio Caroline va organiser le premier concert en direct d'un bateau, et c'est l'organiste de jazz Jimmy Smith qui va se prêter à cet exercice. De passage en Grande-Bretagne pour l'enregistrement de la bande originale du film Where the Spies Are, le musicien va être invité par Ronan O'Reilly, qui est un fan de jazz. Il lui propose de venir jouer en direct sur le MV Caroline. Le bateau a emmené avec lui la discothèque des premiers mois de la station, riche de nombreux disques de jazz qui sont toujours régulièrement joués par les DJ. Mais un emploi du temps compliqué empêche Jimmy Smith de se rendre jusqu'à l'île de Man. Peu importe, on organise l'événement sur le Miami Go. Le 5 mai 1965, l'invraisemblable se produit. Accompagné de deux musiciens anglais, le batteur Tony Crombie et le guitariste Tony Thorpe, Jimmy Smith arrive sur le Miami Go flanqué d'un orgamon C3. L'instrument a été embarqué sur le ravitailleur depuis la Terre pour être installé sur le Miami Go. Quelques années plus tard, Tony Thorpe se souvient du transfert entre les deux bateaux. Deux gars tenant une partie de l'orgue encore sur le ravitailleur, deux autres penchés au bord du Miami Go tenant l'autre partie de l'orgue et 15 brasses de mer en dessous. Une fois sur le pont, on s'aperçut que l'instrument ne pourra pas descendre dans le studio. Il est trop volumineux. C'est donc à l'extérieur, sur le pont, en plein vent, que les musiciens vont jouer plusieurs morceaux dont Hip Ship Blues. Ils furent obligés de se réchauffer les mains dans un seau d'eau chaude avant de pouvoir jouer. Et durant la pause, le DJ Simon D réclama que l'on apporte du thé chaud pour le groupe.
A very special show on Caroline, because for the very first time in commercial radio and for the very first time nearly in England, this is Simon D on behalf of all of us on Caroline welcoming Jimmy Smith, a fantastic jazz organist, to our boat. He's brought along with him a couple of people and about 16 technicians and Martin has been doing a great job over here. So before we find some sounds, let's have a quick word with the people that you're going to hear along with Jimmy Smith. First of all, on drums, Tony Crombie. Oh, that's beautiful. Tony Crombie. Tony, you've been working with some other organ player in London, haven't you?
Yes, I've been working with the British organist Alan Haven for some time.
Who recently made Image.
That's quite right, yes.
A knockout record. Do you find it easy working with organ players?
Well, for a drummer it's very good because the organ is full of volume. It's like playing with a big orchestra.
Right. Well, I wish you luck. Are you not freezing here, are you?
It's pretty cold, but we'll be all right. We'll get warmed up in a minute.
That's cool. Thank you very much, Tony. Hang on, I'll be with you in a second, Jimmy. Next guy, Tony. Oh, you introduce yourself, Tony.
Tony Thorpe.
That's it, two Tonys. Who have you been playing with recently, Tony?
I'm working with Wee Willie Harris
on guitar. How long have you been playing guitar?
About 8 years.
And you admire who, really, in the guitar field?
Django, really.
Django Reinhardt, yeah. Yes. Above him, what about the classic Spanish? Do you like that?
Yeah, John Williams.
John Williams,
yeah.
Well, thank you very much for coming, Tony. I hope you managed to stay alive this afternoon.
Yeah.
And last, by no means least, two Tonys and a Jimmy, who's waving to the tender because his photograph's been taken.
Come on over.
Come on in.
All right, watch the volume. You know,
that
way.
Watch the volume.
That way, look.
Oh, no. I'm looking over this way.
All right, you've had it. Can you hear me over there? The tender over there shooting photographs. You've had it. Well, make some sounds. All right, you ready, Jimmy?
Yeah,
the opening number, Tony Crombie on drums, Tony Thorpe on guitar, and the fantastic Jimmy Smith on organ with Hip Ship Blues.
Jimmy Smith était très proche de Radio Caroline à cette époque. C'est lui qui composa et joua les bases musicales des premiers jingles de la station. The Daily Mail, vendredi 14 mai 1965. Les pirates de la radio promettent de la pop 24 heures sur 24, par Douglas Marlborough. La radio pirate la plus puissante de Grande-Bretagne, Radio London, prévoit de diffuser de la pop 24 heures sur 24. Elle a annoncé cette décision peu de temps après une déclaration faite hier par la Chambre des communes, selon laquelle le gouvernement est déterminé à mettre un terme aux radios pirates. Le directeur général des postes, M. Anthony Wegward-Bern, a déclaré qu'une convention avec les pays européens visant à les éliminer complètement serait certainement suivie des faits. La demande de pop 24 heures sur 24 serait alors satisfaite par la BBC. Les pirates ont rapidement riposté. M. Michael Stone, 26 ans, directeur des promotions de Radio London, a déclaré « Cela n'a rien à voir avec ce que le gouvernement pourrait prévoir ». il ne s'agit pas non plus d'une tentative d'augmenter nos revenus publicitaires. Nous nous en sortons extrêmement bien avec nos émissions actuelles qui sont diffusées quotidiennement de 6h du matin à 21h. Mais nous nous considérons comme un service public. Si nous, en tant que radiodiffuseurs, parvenons à attirer une majorité d'auditeurs, nous devons leur fournir un service complet. Nous sommes favorables à la concurrence. Comme nous le savons, depuis seulement 4 mois d'expérience en matière d'écoute, la majorité des gens préfèrent nous entendre. Monsieur Stone a ajouté « Aucun gouvernement ne peut désormais aller à l'encontre de l'opinion publique ». Entre-temps, le ministère des Postes a ordonné aux sociétés de radio par câble britanniques de cesser de relayer les programmes de Radio London, Radio Caroline et autres navires de pop. Le GPO a déclaré, en vertu des termes de leur licence, les sociétés de relais ne doivent fournir aux abonnés que les programmes de la BBC et d'autres stations autorisées. Toutefois, si le bras de fer engagé met Radio London et Caroline dans le même camp, la nouvelle venue essaie de se démarquer et de gommer l'image de pirate qui affuble sa concurrente. Radio London tente de se forger une respectabilité. Les fonctions du directeur Philip Birch au sein de l'agence de publicité G. Walter Thompson furent par exemple mises en valeur, ainsi que son passé glorieux durant la Seconde Guerre mondiale.
Yes, they are the Rooters and let's go on the getting of a program. And it's revived at 2:45 of the old Wurlitzer so there. Let's flip through the top 10, shall we? Number 10, Looking Through the Eyes of Love, Gene Pitney. Bert Bacharach, number 9. Trains, Boats and Planes, number 8. Sandy Shaw, Long Live Love, number 7. The Clapping Sawing by Shirley Ellis. Number Kinks, the 6 with Set Me Free. Number 5, The Colors of Donovan. The Who, Anyway, Anyhow, Anywhere, number 4. And from last week's number 5 to this week's number 3, Crying in the Chapel, Elvis Presley. Going absolutely no place. The Everly Brothers, for the second week at number 2, that's 3 toes in a row, 22, The Price of Love, that's Thursday, by the way, Seymour Bingo, Thursday, Seymour Bingo, The Hollies at number 1 with I'm Alive. This is a Radio London climber from the Ivy League, it's called Tossing and Turning.
Daily Mail du 1er juin, un court article annonce l'arrivée sur la BBC d'un DJ de Radio Caroline. The Daily Mail, mardi 1er juin 1965. Un gars de Caroline rejoint la BBC, par Brian Dean. Simon Dee, premier disque jockey de radio pirate de Grande-Bretagne, a quitté Radio Caroline et rejoint la BBC. Né au Canada, Monsieur Dee, 28 ans, animera le programme Light Swing Into Summer le mois prochain et le programme Light Stay Late pendant 5 dimanches en août. Si cela ne change évidemment rien à la situation juridique des radios offshore, il s'agit malgré tout d'une reconnaissance de leur pertinence. Après avoir augmenté la présence de musique pop dans ses programmes, la BBC s'intéresse donc à certaines voix de leurs ennemis jurés. Dans le même article, on apprend qu'un projet de télévision offshore est en gestation. La première station de télévision pirate de Grande-Bretagne est planifiée par M. Reg Calvert, l'homme derrière Radio City. La station, basée sur un ancien dragueur de mines navales au large de la côte du Kent, diffusera des films et des bulletins d'information en direct, a déclaré M. Calvert hier. Le directeur de l'ancienne Radio Such a vu ses efforts récompensés. Le programme de Radio City séduit davantage d'auditeurs grâce à une meilleure qualité de ses émissions et de sa réception, même si l'audience reste très inférieure à celle des deux leaders. Du coup, Calvert envisage de lancer un second programme, Radio City West, et une chaîne de télé à bord d'un navire ancré dans le canal de Bristol, pour desservir l'ouest de la Grande-Bretagne et le pays de Galles. Malheureusement, Calvert ne parviendra pas à acquérir ce navire. Il songe alors à utiliser un second fort marin et son choix s'arrête sur Fort Knockjohn. Au début de l'été, quelques équipements radio commencent à être installés sur le fort. Mais Ray Calvert ne sait pas que l'endroit est aussi convoité par une autre équipe dirigée par un certain Roy Batts. Dès la fin de l'année 1964, ce patron pêcheur et homme d'affaires a été à la fois inspiré par le succès de Radio Caroline et par l'idée de Screaming Lord Such d'utiliser un fort marin comme base d'émission. Il y en avait 6 au large des côtes britanniques et Batts et son équipe commencèrent à les visiter, à l'exception de Shivering Sand et Red Sandford, déjà occupés. Son choix s'arrêta sur Knockjohn, mais il lui fallait lever des fonds et constituer une équipe. Au début de l'été 1965, il était prêt et revint au fort avec quelques hommes pour installer les premiers équipements de la future station Radio Essex. Ils furent accueillis par des membres de l'équipe de Reg Calvert. Ils argumentèrent qu'ils avaient décidé de s'installer sur le fort depuis plusieurs mois, mais les hommes de Calvert ne voulurent pas quitter l'endroit. Une altercation débuta, le ton monta et on en vint même au coup. Selon les témoins, l'affrontement fut assez violent et les hommes de Rybats parvinrent à chasser l'équipe de Reg Calvert. Ceci mit un terme aux volontés de Radio City d'ouvrir un second programme et une chaîne de télé.
Well, when that song was composed, they must have known that it could not possibly miss, and they were quite right. It's just one of those songs that just has to get right up in the hit parade. Well, on the other side of that record, Herman's Hermit sings Can't You Hear My Heartbeat? Well, let's hear the other version of that by Goldie and the Gingerbreads.
En Suède, la situation de Radio Sid est pour le moins étrange. En mai, Britt Wadner fit un nouveau séjour en prison pour émission illégale d'un programme radio. Et au début du mois de juin, des annonceurs qui avaient acheté de l'espace publicitaire sur la station furent également condamnés à des amendes. Mais en parallèle, un sondage montrait que 80% des Suédois écoutaient Radio Sid. Dopée par cette popularité, l'équipe de la radio était bien décidée à continuer et même à aller plus loin, et envisagea de lancer une chaîne de télévision. C'était d'autant plus tentant que le Cheta 2 était déjà partiellement équipé pour accueillir un programme télé. Ceci datant de l'époque où il appartenait à Radio Mercure qui avait formulé un projet similaire. Cette nouvelle initiative crispa encore un peu plus le gouvernement suédois qui, en attendant la finalisation d'une loi européenne anti-radio offshore, renforça sa législation pour tenter d'isoler le Cheta 2. Le 27 juin, le navire radio reçut la visite des Rolling Stones qui assuraient la promotion d'un concert à Malmö. Un formidable coup de projecteur pour Britt Wadner et son équipe.
Christel och Ingrid, här har jag så äntligen ert brev. Ja, Christel och Ingrid berättade att de har skrivit många, många gånger förr men har aldrig haft tur. Den här gången kom ni med i alla fall och här är grattishälsningarna till Clary B. Vi ska också hälsa till hela gänget som brukar vara hos Yvonne och Janne. Särskilt då till Robert O och till Snillet. En platta med Rolling Stones ska vi spela och vi ska lyssna till melodin If You Need Me som Lena och Susie har bett att vi ska plocka fram. Plattan snurrar speciellt för Gunilla Wallgren som heter Elsa och som alltså också har namnsdag idag. Vår nästa skiva alltså, Rolling Stones If You Need Me, kommer här.
If you need me, why don't you call me? Said if you need me, why don't you call me? Don't wait too long when things go wrong. I'll be there.
Et si Radio London avait inventé la discothèque? À partir de l'été 65, tous les samedis après-midi de 14h30 à 17h30 au Marquis Club de Londres, les DJ de la station ont rendez-vous avec leurs auditeurs qui viennent danser sur les disques qu'ils entendent sur leur radio préférée. Les disc shows, c'est le nom de ces après-midi, peuvent être considérés comme les ancêtres des discothèques.
It's the unit 4 plus 2 with the beat ready climber for this week called simply Hark, and hark to this lot too, because TEW in no less than 35 minutes from now will be down at the Marquee, because they open up the hangar doors there at 2:30 this afternoon at number 90 Wardour Street for another Saturday afternoon beat and disc show. So TEW will be your host down there. He'll be introducing some groups and famous personalities to you, as well as spinning this from the fabulous 40. Incidentally, it's cheap enough to get in, too. £3 to Radio London Club members and £4 to non-members. It gets mighty crowded down there, believe me, so do hurry on down if you're planning on getting in at all. It really does get packed out. Starts at 2:30, so it's going to be quite a party. Rather noisier than this one.
Radio Caroline a-t-elle discrètement aidé le gouvernement anglais dans le conflit politique qu'il a opposé au pouvoir autonome de la Rhodésie? C'est une affaire mystérieuse et peu connue. La Rhodésie, aujourd'hui Zimbabwe, fut une colonie britannique. Dans la vague d'émancipation et de décolonisation qui touche l'Afrique au début des années 60, le territoire rhodésien se morcelle. Le Nord devient indépendant sous le nom de Zambie. Et le Nyasaland se sépare aussi pour devenir le Malawi. La minorité blanche de la Rhodésie du Sud craint une prise de pouvoir de la majorité noire et estime que la couronne britannique est indifférente à cette situation. À la fin de l'année 1964, le gouvernement rhodésien proclame unilatéralement un changement de nom. La Rhodésie du Sud devient Rhodésie. C'est le premier pas vers une proclamation de l'indépendance. Pour lutter contre les volontés séparatistes du front rhodésien, emmené par le Premier ministre Ian Smith, Londres a imaginé plusieurs stratégies, et notamment la création d'une radio en vue de diffuser la voix du pouvoir britannique face au contrôle exercé par le front rhodésien. La question fut plusieurs fois évoquée à la Chambre des communes, et notamment l'amélioration de la couverture de diffusion du BBC World Service dans la région. Lors d'une séance parlementaire, le Premier ministre Harold Wilson déclara que s'il fallait s'inspirer de l'expérience d'une organisation connue sous le nom de Radio Caroline, le gouvernement n'hésiterait pas à le faire. Visiblement, des rencontres très discrètes ont eu lieu entre Ronan O'Reilly, Alan Crawford et des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Et Radio Caroline aurait indirectement contribué à l'installation d'un émetteur au Botswana voisin pour diffuser le BBC World Service. L'histoire est pour le moins savoureuse.
Piano Smith, a little number called Don't You Just Know It, and if you're not dancing over the place by now, well, and you're still lying in bed or sitting down, I just give up, because I've tried everything, man,
Well, yeah, this boy comes on strong. Yeah. You might say that
he is, of course he does. Okay, man, okay, I get the message, and right now, don't forget you're listening to the Tom Lodge Show. Oh, marvelous, isn't it? Thank you very much.
Join the Caroline crowd with a Radio Caroline t-shirt. In small, medium, and large sizes, the Caroline t-shirt can be yours for only 12 and 6. Join the Caroline crowd this summer. Write for an order form to Caroline t-shirt, 6 Chesterfield Gardens, London W1.
And the time is 10 minutes before 9 o'clock, and you're going to miss your bus, late for work, and you're going to get in awful trouble. But let me know about it anyway. Manfred Mann.
Let me tell you about the Manfreds.
Le 24 juillet 1965, le Daily Mail et le Billboard publient les résultats d'un sondage mené par National Opinion Poll durant le mois de mai. Cette enquête crédite les radios offshore d'une audience de 13,1 millions de personnes par semaine. Les deux émetteurs de Radio Caroline séduisent 9 millions de personnes et le programme de Radio London 7 millions. La réussite n'est en revanche pas au rendez-vous pour King Radio qui, après quelques mois d'existence, séduit tout au plus environ 20 000 auditeurs aux heures de grande écoute. David Lee, l'un des actionnaires, s'est tourné vers Ted Albury, un consultant en relations publiques. Et son cabinet a fait quelques propositions, en recommandant notamment de ne pas céder à la tentation de copier London et Caroline, tant dans leur programmation que dans le style de l'antenne. De nouveaux capitaux furent injectés et un nouvel émetteur fut installé sur Red Sandford pour accroître la zone de diffusion. Malgré tout, King Radio cessa ses émissions le 22 septembre. Mais l'émetteur resta en onde et diffusa un message annonçant la naissance d'une nouvelle radio, Radio 390.
Now Eve, a woman's magazine of the air presented by Radio 390, invites you to hear Europe's greatest stars in Continental Cabaret.
C'était les DJ de la haute mer, 10e épisode.